Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé.
Édith Piaf.
Il y avait jadis ce qu'on appelait le réalisme, qui était un réalisme de théâtre. Et puis nous avons tous beaucoup lutté contre ce réalisme. Et aujourd'hui, il existe quelque chose de tout à fait neuf. Et pourquoi j'avais besoin de Piaf? Parce qu'elle symbolise quelque chose. C'est ce que j'appelle le plus vrai que le vrai. La vérité qui est roussée dans la lumière.
Signé Jean Cocteau. C'est dans les concours d'école de journalisme un pont aux ânes. 11 octobre 1963, Piaf meurt et peu d'heures après, c'est Cocteau. Comment traitez-vous le sujet ? Demande-t-on au candidat. Il est conseillé de répondre que Cocteau avait écrit pour Piaf une pièce, Le bel indifférent, représenté en 1940. On peut ajouter que Cocteau avait été très affecté par la disparition de la chanteuse, la sienne en avait été hâtée. Il faut souligner aussi que les titres de la presse furent très différents. Piaf a succombé, ce n'est pas la même chose que Cocteau est mort. La première manchette suggère que la chanteuse, âgée seulement de 47 ans, s'était dressée sur son séant jusqu'au bout, tandis que la seconde indique que le poète s'était lentement couché avec majesté. Deuxième exercice, c'est celui auquel a été confrontée la Bibliothèque nationale de France. Roland Barthes et Piaf auraient l'un et l'autre 100 ans en 2015. Que faire ? Eh bien, organiser une exposition pour chacun et faire figurer dans celle sur Piaf un inédit de Barthes, le brouillon d'une conférence qu'il prépara après-guerre pour l'Institut français de Bucarest. Édith, notait alors Barthes, c'est une petite femme comme toutes les petites femmes, les faibles et les opprimés se retrouvent dans son courage. Cocteau dit de Piaf qu'elle est la vérité haussée dans la lumière. Barthes, qu'elle lutte avec cran contre la grande fatalité de l'injustice. Toute la mythologie de Piaf est là.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Martin Penet, bonjour.
Bonjour Jean.
Historien incontesté de la chanson, vous deviez participer au catalogue de l'exposition de la BNF qui ouvre au public privilégié ce jour, à la presse, et demain au vrai public. Le grand public, c'est le vrai public, dirait Piaf.
Certainement.
Alors, on va commencer, évidemment, en évoquant ses débuts légendaires. Elle est née à Thenon et pas rue de Belleville.
Oui, alors, Piaf, c'est une légende qui s'est construite au fil de sa vie et qui démarre dès sa naissance, puisque donc, il y a une plaque sur un immeuble de la rue de Belleville, comme quoi elle serait née sur les marches de cet immeuble. En réalité, non, elle est née à l'hôpital Thenon. Et de la même manière, elle n'est pas morte à Paris, mais le décès a été constaté à Paris et donc elle est inhumée au Père-Lachaise.
Elle a été expédiée discrètement de grâce.
C'est ça.
Où elle est morte à Paris. C'est Cocteau qui est mort dans la région parisienne. Issu d'une famille de forains.
Oui, enfin, plus exactement, son père était contorsionniste, donc on était un peu dans le milieu du cirque, et sa mère était également chanteuse. Elle se produisait sous le nom de Lynn Marsa, dans un univers plus populaire, les kermesses, les foires, les bistrots, et elle a tout de même fait quelques incursions au music hall et dans les cabarets. Il existe même une affiche rarissime de Lynn Marsa.
Et on a à l'exposition de la BNF une photo d'elle, alors qu'elle a cessé déjà de chanter et que la môme aux goualantes est montée déjà sur le podium. La Môme aux goualantes, parce que c'est une chanteuse de rue. On n'imagine plus maintenant ce que c'est qu'un chanteur ou une chanteuse de rue.
Oui, ça a presque disparu complètement. Donc les chanteurs de rue ont eu une grande notoriété pendant plusieurs siècles et ce dont on se souvient le mieux, c'est peut-être la première moitié du XXe siècle lorsque ils étaient encartés. Hein, ils devaient à chaque fois avoir un numéro d'immatriculation et ils devaient également avec un carnet dire où ils allaient chanter avec une autorisation administrative, et donc il y avait certains carrefours qui étaient attribués pour ça dans Paris, mais aussi au-delà. Ça se passait un peu comme ça dans différentes villes. Et puis, donc Piaf a commencé de façon, elle, moins officielle, hein, parce qu'il y avait aussi les
clandestins.
Les clandestins, si on peut dire, qui donc allaient dans les cours d'immeubles et on leur jetait des pièces. Alors ça, c'était beaucoup moins autorisé. Mais quand même, à force, elle a une petite réputation dans le quartier. Et donc, elle avait deux comparses, hein, parce que ça se passait souvent comme ça. Il y avait avait un chanteur avec un porte-voix et puis deux musiciens généralement. Et donc certains d'ailleurs, ceux qui étaient officiels, vendaient des partitions pour le compte des éditeurs de musique. C'était toute une industrie. Mais elle, elle ne vendait pas de partitions. Elle allait vraiment essayer de gagner sa vie. Et elle a finalement obtenu l'autorisation de chanter dans les casernes et pour aller divertir les soldats dans la banlieue parisienne.
Plus tard, un film à sa gloire et aussi à celle des compagnons de la chanson, intitulé « Un garçon, neuf garçons pardon, et un cœur », va recomposer son passage à la scène.
Bonjour maman.
Qu'est-ce que... Ah, ça c'est extraordinaire. Ah, ça, il n'y a pas cinq minutes, je parlais de toi. Bien que je te présente, mademoiselle Lisa, ma nièce.
Enchantée, mademoiselle. Je suis très fière de vous connaître, mademoiselle.
Bien, alors quoi de neuf, fillette?
Tu comprends, c'est bête, je m'étais imaginé que tu pouvais me rendre service.
Mais tout ce que tu voudras.
C'est vrai?
Je te le dis, tout ce que tu voudras, tu n'as qu'à demander, je suis à ton entière disposition.
Ben voilà. Tu sais, en ce moment, ça marche pas très fort pour moi. Mm-hmm. Alors, si c'était possible, d'obtenir un engagement.
Quoi, tu veux chanter? Et où ça?
Ici.
Ici? Et mais quand?
Ce soir.
Il faut tout de même que je sache ce que tu sais faire. Alors, qu'est-ce que tu vas me chanter?
Un refrain courait dans la rue.
Ah, je te préviens, j'ai cinq minutes à t'accorder.
Dans un amour, il faut de la fierté, savoir se taire de la dignité.
Dis donc, je t'arrête, là. C'est gay ou c'est triste ton machin?
Oh, je ne sais pas, écoute-moi.
Oui, alors, continue, on verra bien. Ouais. Allez.
Si mon cœur est désespéré.
Ah, tu vois, désespéré. Non, c'est triste ton truc.
L'oncle, c'est Papa Le Play.
Oui, en quelque sorte. C'est le film date de 47 et l'histoire de Papa Le Play, c'est 1935, fin 35. Donc l'oncle compte vraiment, elle est propulsée en quelque sorte sur une scène, la scène d'un cabaret qui s'appelait le Gernis, donc qui était rue Pierre Charron, dans le 8e arrondissement de Paris.
Faut pas imaginer les cabarets du 8e comme ceux de la rive gauche après-guerre.
Ah non, rien à voir. Là, c'était beaucoup plus chic. Ça se passait un petit peu plus tard devant un public très sélect. On pouvait dîner et puis écouter les chanteurs qui venaient se produire. En fin de soirée, et c'est vrai que là, quand elle a été pour la première fois devant ce public très élégant, ça a quand même créé un événement, parce que c'était incroyable, et ce petit bout de femme qui sortait de la rue, et que, soi-disant, Papa Le Play donc, a découverte sur un trottoir, rue Troyon, à quelques pas de son cabaret, et en réalité, c'est sans doute une légende, puisque en fait, il connaissait sans doute son nom, par ses relations, puisqu'elle avait déjà un peu fait ses classes à Pigalle, et donc elle fréquentait aussi un peu les cabarets de Pigalle. Donc c'est plus compliqué que ce que la légende raconte.
C'est triste ou c'est gay, demande l'oncle, demande Le Play. Alors, peu à peu, Le Play va la faire avancer dès la fin 35, début 36, en formation coordonnée. Parce qu'il y a la scène, le Gernis, mais pas seulement, il y a la radio. Et là, il y a un autre nom qu'il faut citer.
Oui, celui de Jacques Canetti, directeur artistique bien connu, qui était à la fois à Radio Cité, hein, où il était directeur des programmes, et chez Polydor, la maison de disques, où il était directeur artistique. Donc, il avait une double casquette, ce qui lui permettait de lancer des jeunes talents. Et c'est ce qu'il a fait à Radio Cité, dans l'émission Le Musical des Jeunes, dès donc la fin 1935, parce que Louis Le Play l'avait appelé en lui disant « Mais viens au Gernis voir le petit bout de femme que j'ai découvert ». Et voilà, donc ça a été tout de suite le coup de foudre, parce qu'il faut reconnaître qu'elle avait une présence extraordinaire. Et donc tout a démarré, mais en quelques semaines. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu donc ce passage sur scène, le passage à la radio, les premiers disques chez Polydor.
Alors les premiers disques chez Polydor, il y a une maquette de la matrice en cuivre à l'exposition de la BN.
Oui.
Ce qui est étonnant, vous connaissez bien Mistinguette à qui vous avez consacré un livre dernièrement. Mistinguette a fait son premier disque à 45 ans. Et elle a 20 ans, Edith Piaf.
Oui, mais c'est pas la même époque. Mistinguette, c'était en 1920. On était encore à l'époque de l'enregistrement acoustique et donc quand elle a fait ce premier disque, qui était d'ailleurs avec la chanson Mon Homme, qui était pratiquement son plus grand succès, à cette époque-là, surtout dans le domaine du musical, le disque c'était très accessoire. On venait voir les artistes sur scène avant tout, et en plus au musical dans un spectacle haut en couleur avec des mises en scène fabuleuses. Et donc le disque c'était presque un souvenir du spectacle. Alors que dans le cas de Piaf, on est donc 15 ans plus tard. Alors
c'est
là,
un tremplin.
Là, c'est un tremplin. Et puis, donc, on est passé à l'enregistrement électrique, qui est bien meilleur techniquement. Et donc, y a tous les médias se développent à ce moment-là. Donc, avec la radio, le disque, le cinéma.
Le cinéma. Alors, le premier film, tourné en 35, est sorti début 1936. Il est adapté de La Garçonne de Victor Marguerite. Les scénarios font un peu de place aux chansons. Le rôle de Piaf est court, mais présent.
Le bonheur quotidien vraiment ne me dit rien. La vertu n'est que faiblesse qui voit sa fin dans le ciel. Je préfère la promesse des paradis artificiels. Je sais qu'à la porte d'un bar où j'aurais bu jusqu'à l'extrême, on ramassera quelque part mon corps brûlé sur un brancard. Je vois quand même que sous la drogue.
Alors c'est une chanteuse réaliste là, si on en croit cette chanson.
De toute façon, Piaf, c'est quand même l'héritière de la chanson réaliste, incontestablement. Donc, et c'est vrai qu'elle a des modèles, elle a des aînés qui ont énormément compté dans l'histoire de la chanson. Celle auquel on pense tout de suite, donc ça va être Damia, qui a quand même porté la robe noire avant Piaf, et qui donc faisait sur scène des attitudes très dramatiques, qui a inventé presque les éclairages pour mettre en valeur ses attitudes au music hall. Et donc, on la surnommait la tragédienne de la chanson. Elle avait un répertoire très très sophistiqué, très théâtral. Et donc on pense également à Fréhel, qui elle était un peu moins sophistiquée, qui avait une silhouette très massive et qui chantait vraiment avec ses tripes. Ça, je crois que Piaf en a hérité d'une certaine façon.
Mais on pense moins à Marie Dubas.
Oui, on pense moins à Marie Dubas, mais en même temps, Marie Dubas a une énorme importance. Parce qu'en fait, Marie Dubas n'était pas que dans la chanson réaliste. C'était une artiste complète qui passait du rire aux larmes d'une chanson à l'autre très facilement. Et donc c'est ce qu'on appelait une fantaisiste, en fait, au sens qu'elle était capable de tout faire. Et donc le sens a un peu évolué depuis, mais donc un vrai fantaisiste, c'est ça, c'est quelqu'un qui a une palette très large. Et donc Marie Dubas a été un modèle pour Edith Piaf, qui d'ailleurs a raconté je dirais constamment pendant 20 ans combien elle a appris auprès de Marie Dubas en allant la voir sur scène et en regardant sa gestuelle, en s'en inspirant. Et c'est vrai qu'on peut même comparer des photos, des gestuelles, et c'est, par moments c'est la même. Et elles ont quelques chansons en commun, et une très importante qui est Mon Légionnaire, qui a été donc écrite pour Marie Dubas et enregistrée un an après par Edith Piaf. Et quand on compare les deux versions, c'est très très différent.
Mais ce qu'on va entendre là, c'est pas la version comparée, c'est un moment dramatique dans la vie de Piaf. Avril 1936, pendant la campagne électorale du Front Populaire, son découvreur, Le Play, assassinée, et la voilà dans un rôle qui n'est pas à son avantage dans les actualités Gaumont.
Louis Le Play, propriétaire d'un bar à la mode, a été assassiné. Les bandits l'ont tué d'un coup de revolver après avoir ligoté et bâillonné sa femme de ménage. On enquête dans les différents milieux fréquentés par la victime.
Monsieur Le Play, plusieurs fois pleuré, il avait peur.
Vous êtes donc certaine qu'au moins un des agresseurs avait un accent espagnol?
Oui, monsieur, il avait un accent espagnol. Puisqu'elle m'a demandé les platines. Madame les platines, les bijoux.
Et vous avez crié au secours et...
Ah, je n'ai pas crié parce qu'il avait le revolver à la main, je ne pouvais pas bouger. C'est au mot de prude, vous êtes brûlé.
Et quelles sont les deux phrases très distinctes que vous avez entendues au moment de l'attentat?
Le fait seulement quand elle a été, n'est-ce pas, qu'elle a vu les gens dedans, elle a crié « Allez, salaud !»
Allez,
salaud, assieds brûlé, mon vieux, l'a répondu l'assassin.
Mademoiselle Piaf, pourquoi après l'attentat avez-vous indiqué le nom de vos amis?
Mais je n'ai accusé personne, monsieur. J'étais obligée de dire avec qui j'étais avant, puisqu'on m'a questionné. Il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Si je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Alors j'ai dit la vérité, mais je n'ai accusé personne.
Vous connaissiez bien le Play?
Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus personne maintenant. Qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi.
Qu'on me laisse tranquille, des larmes. Alors on est quand même surpris, en vous lisant dans le catalogue de la BNF, Martin Penet. Elle va tirer une leçon de cet épisode.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois, elle est confrontée aux caméras. Et moi, je trouve qu'elle en joue merveilleusement, même si elle est évidemment un moment dramatique de sa vie, ça c'est clair, et ça lui a porté un certain préjudice. 48 heures de garde à vue, un interrogatoire, on a essayé de l'impliquer, de lui faire cracher qu'elle avait un rôle dans cette affaire. En fait, non, c'est juste parce qu'elle fréquentait les mauvais milieux de Pigalle, elle avait encore des copains là-bas, et qui venaient la voir au cabaret, et puis, Louis Le Play, sans doute, il n'était pas insensible, parce que lui, il aimait les hommes, donc le fait de voir débarquer quelques mauvais garçons, sans doute que ça lui plaisait, et bon, ça s'est mal terminé pour lui. Et donc, on n'a pas réussi d'une part à la confondre, évidemment, parce qu'elle n'avait pas de rôle direct dans cette affaire, et on n'a pas réussi non plus à retrouver l'assassin. Ça reste un mystère, cette histoire. Et donc là, c'est vrai que quand elle dit qu'elle joue à la malheureuse, qu'elle n'a plus rien, c'est vrai qu'elle n'aura plus d'engagement pendant plusieurs mois, qu'elle a perdu son papa Le Play, mais en même temps, elle n'était pas si seule que ça. Il y avait quand même Canetti, et il y avait surtout un quelqu'un qui rentre dans sa vie depuis un petit moment, qui s'appelle Raymond Asso, et c'est quelqu'un de très important qui va devenir son Pygmalion, son agent, son parolier, celui qui va vraiment la façonner pendant plusieurs années et qui va finalement construire Édith Piaf, c'est-à-dire qu'il va... on va oublier la môme Piaf, qui était le surnom inventé par Louis Le Play, elle va devenir Édith Piaf, et ce, en l'espace de quelques années.
Tout est mis en place dès avant la guerre, et notamment le travail en collaboration avec Marguerite Monnot.
Très important, parce que donc Marguerite Monnot, qui était une géniale compositrice, qui avait vraiment un sens mélodique populaire formidable, en ayant fait des études de classique, a donc composé avec Raymond Asso toute une série de chansons très importantes, comme « Je n'en connais pas la fin »,« C'est lui que mon cœur a choisi », et ces chansons, il y en a bien d'autres encore, je ne vais pas tout citer, mais et donc ça a beaucoup, beaucoup compté dans ce premier répertoire d'Édith Piaf, qui avait arrêté de reprendre les succès de quand elle était jeune, créés par les autres, ce qu'elle faisait dans la rue. Là, maintenant, elle a un répertoire propre à elle, écrit pour elle, et ça va vraiment construire son image et la faire apprécier du public et lui donner de la matière pour faire ses enregistrements, bien évidemment. Et Marguerite Monnot va devenir une très grande amie d'Édith Piaf, et là, le point essentiel, c'est qu'elles vont commencer à écrire ensemble. Et qu'au total, ça, on le sait pas toujours, pendant toute sa vie, Piaf a écrit les paroles de 80 chansons. Et donc, ça démarre en 1941. Et donc, on va...
En voici une de cette époque. Le grand essor d'Édith Piaf, c'est l'occupation. Elle écrit ce texte. Marguerite Monnot compose la musique.
Où sont-ils tous mes copains qui sont partis un matin faire la guerre? Où sont-ils tous ces petits gars qui chantaient on ne reviendra pour pas s'en faire? Les tambours et les clairons accompagnent leurs chansons dans l'aube claire. Où sont-ils tous mes copains qui sont partis un matin faire la guerre? Je connaissais des petits gars de Saint-Cloud, je connaissais des gars de la Villette, je connaissais des gars d'un peu partout, pas un de ceux-là n'a fait la mauvaise tête. Il y en avait de Ménilmontant, il y en avait des gars de 20 ans, tous ont répondu présent et sont partis en chantant. Mais voilà mes petits copains qui sont partis un matin faire la guerre. Mais voilà tous ces petits gars qui chantaient on en reviendra pour pas s'en faire. On entendra les garçons chanter de belles chansons, tout sera clair. Mais voilà mes petits copains qui sont partis un matin faire la guerre. Et voilà.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Martin Penet, nous parlons d'Édith Piaf au moment où va s'ouvrir une grande exposition pour son centenaire à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Où sont-ils mes petits copains? Et où sont-elles les concurrentes?
Eh bien, elles ne sont plus toutes là. C'est vrai que c'était une période très, très compliquée à bien des égards, mais dans le domaine de la chanson, C'est vrai que certaines chanteuses ont été écartées par les lois raciales, et donc, par exemple, Marie Dubas ne pouvait plus chanter. Elle a un peu chanté en zone libre, et puis finalement, elle est partie en Suisse à partir de 1942. René Lebas, qui était vraiment une concurrente pour Edith Piaf, qui était un peu dans le même domaine, elle, pareil, était obligée d'aller chanter d'abord en zone libre, puis en Suisse. Elles ont suivi à peu près le même itinéraire. Et bon, pour en citer d'autres comme ça. Et puis, il y avait aussi le décalage des générations. C'est vrai que, par exemple, Damia a continué à avoir un certain succès pendant l'occupation, mais on sentait déjà que c'était un peu la fin. Quant à Fréhel, alors elle, c'était pire, hein, d'une certaine façon. Et donc, elle a vraiment pris son essor à ce moment-là, Edith Piaf. Et bon, c'est vrai qu'il y en avait d'autres qui ont aussi pris leur essor à ce moment-là.
Oui, la grande concurrente, quand même, c'est Léo Marjan. Mais Léo Marjan, on en a voulu bien davantage à la Libération. Edith Piaf.
Oui, alors ça s'explique pour des tas de raisons différentes, mais pourtant leur itinéraire est presque comparable, puisqu'elles chantaient toutes les deux beaucoup musicaux, elles ont fait des tournées, chantaient au cabaret, donc quand on regarde vraiment le détail de leurs activités, il y a beaucoup de similitudes, elles ont fait beaucoup d'enregistrements. Piaf est allé chanter
deux fois en Allemagne
uniquement pour les prisonniers de guerre, donc dans des camps, durant l'été 43. C'était des tournées qui étaient organisées pour cela. Et elle y est retournée de sa propre initiative début 44. Et alors là, elle a monté toute une affaire où soi-disant, elle aurait contribué à faire évader des prisonniers avec une histoire de photo d'identité. Enfin bon, c'est un peu long à raconter ici.
Mais l'opinion n'a pas voulu, ni non plus le comité d'épuration. Notons quand même qu'au concours de la postérité, Piaf l'a emporté, mais qu'au concours de la longévité, c'est Marjane.
C'est Marjane qui est toujours parmi nous.
Et qui a plus de 100 ans, elle. L'après-guerre est marquée par la présence d'un nouveau Pygmalion, qui est Louis Barrier, qui va lui faire changer de maison de disque et qui va l'amener à son premier grand sommet, la salle Pleyel.
Oui, alors c'est vrai que à l'époque, faire un récital, c'était quelque chose de tout à fait particulier dans le domaine de la chanson. C'était vraiment réservé aux grands artistes. Et donc, quand Piaf a chanté au Palais de Chaillot en 46, puis à la salle Pleyel en 49, on peut considérer que c'était un événement d'être capable de tenir toute une soirée en scène, toute seule, enfin avec des musiciens bien sûr, mais seule à l'affiche. Et ça, c'est pour l'époque, c'est quelque chose qu'on réservait à des talents très très confirmés. Et donc son impresario, Louis Barrier, qu'elle a rencontré fin 45, va construire pour elle finalement une carrière encore plus éclatante qui va l'amener jusque aux États-Unis.
Les rencontres amoureuses jouent quand même beaucoup.
Oui.
Il y a eu Yves Montand, un des compagnons de la chanson.
Oui.
Les compagnons de la chanson sont off, et c'est avec les compagnons de la chanson qu'elle se produit aux États-Unis. Et vous expliquez dans le catalogue de la BNF que ça s'est pas bien passé au début pour elle.
Non, elle arrive donc à New York fin 47, où elle débute avec les compagnons de la chanson, dans une salle qui s'appelait le Playhouse Theater donc à Broadway, et ça tourne nettement à l'avantage des compagnons, qui plaisent beaucoup au public, tandis que elle, à vrai dire, le public américain s'attendait à voir une grande chanteuse glamour et sophistiquée en robe moulante, et quand il voit ce petit bout de femme habillée de noir qui interprète des chansons tristes, ça marche pas trop. Et il faudra attendre plusieurs mois, il faudra attendre le soutien d'un journaliste qui, lui, a vraiment compris qu'elle était et puis qu'elle décide de vraiment s'accrocher à sa carrière américaine, donc d'apprendre l'anglais, d'aller chanter dans les cabarets qu'il fallait, c'est-à-dire le Versailles, un cabaret de New York très francophile, et progressivement de s'adapter un petit peu aux usages américains. Et là, elle va construire une carrière en l'espace qui va durer une dizaine d'années, qui sera absolument formidable.
Avec toujours l'association de la vie privée et de la vie publique, le drame de la mort du boxeur Marcel Cerdan, son ami,
sa
en 49,
oui.
Va finalement, si on est dur, la servir. Il y a des chanteuses qui ont eu beaucoup de succès en Amérique. Il y a aussi des chanteurs français qui ont eu beaucoup de succès en Amérique. En 1955, La joie de vivre d'Henri Spad est en duplex avec New York.
Pierre Crenez qui vous parle de New York.
Pierre Crenez, bonsoir.
Bonsoir Henri Spad.
Pierre Crenez, dites-moi les noms des deux merveilleux artistes qui sont à côté de vous en ce moment dans votre studio de New York.
Les deux seuls vrais, les deux seuls grands, Edith Piaf et Maurice Chevalier. Edith Piaf qui continue de remporter un succès énorme au Versailles et Maurice Chevalier remporte un triomphe à l'Empire Room du Waldorf Astoria.
Bonsoir Edith Piaf, bonsoir Maurice Chevalier.
Bonsoir.
How are you,
Spatz? Oh, very well, Mr. Chevalier.
That's great, good.
Bien, Maurice. Alors, Edith Piaf.
Oui.
Edith Piaf, Pierre Canès vient de nous dire quel succès vous remportez à New York, ça nous le savions. Est-ce qu'on peut vous demander quand vous allez revenir parmi nous?
Eh bien, je pense au mois de mars.
C'est long?
Ben oui, c'est long.
Alors, Edith, je vais vous demander, ça nous ferait un très très grand plaisir de vous entendre chanter, parce que de vous savoir si loin et quand même si près avec cette si belle chanson, eh bien, mon Dieu, nous en serons encore plus émus que d'habitude.
Ben d'accord.
Qu'est-ce que vous allez nous chanter, Edith?
A song that I wrote, La vie en rose. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La vie en rose.
Au Carnegie Hall, 56-57, deux grands sommets encore, et il y a les 33 tours qui permettent de restituer dans leur intégralité ces tours de chant, et c'est très important parce qu'on peut écouter l'écoute du public dans laquelle prend corps la chanson.
Oui, bah ça c'est l'évolution des techniques qui effectivement, à partir des années 50, permet de conserver des interprétations en public complètes de ces tours de chant, et donc ça fait un témoignage extrêmement précieux. On a même quelques images filmées également. Et donc ce qu'il faut dire aussi concernant les États-Unis, c'est qu'on a tendance un peu à simplifier, à dire qu'elle a été la grande chanteuse française aux États-Unis. C'est vrai, mais elle a marché quand même dans les pas d'un certain nombre de ses aînés, et pas des moindres, hein, puisqu'il y a eu donc Yvette Guilbert, Miss Tinguette, Lucienne Boyer, qui a trié ont fait aux États-Unis pendant des années. Et donc, voilà, Edith Piaf est arrivée après. Et puis, à son époque, il y en avait également d'autres, comme Jacqueline François, Patachou, Zizi Jeanmaire. Donc, c'est vrai que Piaf a été une très grande ambassadrice de la chanson française à l'étranger et en particulier en Amérique. Mais c'était pas la seule.
Et puis, sa carrière aux États-Unis s'est terminée en 57 avec un tout petit passage en 59. Son état de santé ne lui permettait plus de franchir l'Atlantique. Elle est pistée dans les dernières années de sa vie, toujours la confusion de la vie publique et de la vie privée. Ici, c'est 5 colonnes à la une. Les images, on s'en souvient, elle est ravagée.
Oui, assez ravagée, le cheveu clairsemé, filmé en gros plan. On sent bien qu'elle n'est pas du tout en forme et Pierre Descrocs arrive à lui faire dire des choses extraordinaires.
On a surtout fait courir de faux bruits, c'est-à-dire qu'on a dit qu'à Maubeuge, à la 4e chanson, j'avais dû abandonner la scène, que je m'étais trouvé mal, que mon impresario avait appelé une ambulance et qu'on m'avait transporté d'urgence en clinique.
Et ça n'est pas vrai?
Ben, non.
Qu'est-ce qui s'est passé à Maubeuge, alors?
Mais rien du tout. C'est-à-dire, si, j'ai été prise d'une canne de toux, ce qui arrive à tout le monde.
Et vous êtes arrêtée de chanter?
Ben, il fallait bien, puisque j'avais envie de tousser.
Si vous étiez obligée d'arrêter de chanter, qu'est-ce qui se passerait?
Je vais dire un mot très horrible, mais je crois que je me suiciderai.
On dit que vous ne dormez pas non plus, ou très peu.
Oh, ça. Il m'est arrivé une chose stupide. J'étais intoxiquée par des barbituriques.
Oui.
Et je pense que c'est ça qui a été la cause de... Enfin, de certains troubles, si je... Un manque de mémoire, mais jamais sur la scène.
De Michel Rivgauche et Charles Dumont, Mon vieux Lucien. Quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain. Comme moi, j'aime bien rire et rigoler et m'amuser. En vrai, alors ce soir, histoire de rire, et comme ça, sans prévenir, j'ai dit comme ça, sans réfléchir, on va chez Lucien, j'ai dit au copain, quel vieux copain que t'as en moi, mon vieux Lucien. Crois-moi, ça va.
Remarquez, je me suis déjà trompée hier. Je vais la recommencer encore une fois parce qu'il faut que je me guérisse de ça, sinon je la chanterai jamais.
Nous étions fin 60 devant son public, l'Olympia qu'il applaudissait à tout rompre parce qu'elle savait, même dans ces circonstances difficiles, jouer avec lui. Martin Penet, merci. L'exposition de la BNF, elle est ouverte jusqu'au mois d'août au vrai public, au grand public à Paris.